Bienvenue dans le magazine touristique de Radio Royan Vercors, à retrouver tous les jours sur notre antenne du lundi au vendredi, 9h, 12h et 18h pour toute l'actualité en ce qui concerne les différents sites touristiques présents dans notre région. Et on aime les valoriser comme celui du jardin de fontaines pétrifiantes. Toujours beaucoup de plaisir à se rendre dans ce petit bassin de fraîcheur, toujours quand cet été effectivement donne des tons des fois de canicule, et toujours bon de se promener et de s'émerveiller. Nous allons voir cela de plus près en compagnie notamment bien sûr de la responsable du site du Jardin des Fontaines et responsable communication, Romane François. Bonjour Romane.
Bonjour.
Juste auparavant, faire l'annonce de nos partenaires. On se retrouve dans quelques instants pour ce qui concerne les aspects du jardin et puis aussi des sites associés. Nous verrons ça d'ici quelques minutes. Auparavant, l'annonce des partenaires qui réalisent ce magazine touristique. Le magazine touristique est réalisé grâce à nos partenaires. Cet été 2023, la grotte de Chourange, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans, ainsi que le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Plusieurs musées également, le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance en Vercors et le musée de la préhistoire du Vercors, ces trois musées à Vassieux-en-Vercors. Autre partenaire, le grand séchoir à Binet, le musée de l'eau de Pont-en-Royans, la maison musée des Amis de la mémoire du Royan à Rochechinard et du côté des festivals, le festival des chapelles Royan-Vercors, le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et enfin, les offices de tourisme Vercors-Drôme, avec leurs trois antennes à Saint-Jean-en-Royans, Saint-Nazaire-en-Royans et la Chapelle-en-Vercors. Et enfin, Indians Valley à Borgard-Barré. Et bien voilà, nous sommes bien installés au jardin des fontaines pétrifiantes à La Saulne, petit et charmant village blotti au pied grande plaine de Saint-Marcellin avec beaucoup de résurgence, c'est ce qui donne toute la magie de ce jardin. Et puis habilement aussi mis en valeur par le soin de l'équipe du Jardin des Fontaines Pétrifiantes. Romane François, donc vous êtes là aujourd'hui présentement au Jardin des Fontaines, mais vous pourrez très bien être aussi dans un autre site que gère cette entité que représente d'abord la grotte de Chourange avec tout doucement des sites qui se sont associés à cette première proposition.
Oui, tout à fait. Donc là, je suis donc située au Jardin des Fontaines Pétrifiantes, mais j'interviens également à Saint-Nazaire-en-Royans au niveau du bateau à roues et de la grotte de Thaïs.
La grotte de Thaïs, oui, le bateau à roues qui se regroupe, c'est ça, sur un peu la plage de Saint-Nazaire-en-Royans.
Oui, c'est ça, au niveau du lac à Saint-Nazaire-en-Royans.
Des sites qui fonctionnent pour certains en saison et d'autres plus largement, ou ils sont un petit peu le même mode d'ouverture dans le temps?
Alors, ils ont quasiment le même mode d'ouverture. À Saint-Nazaire-en-Royans, on est ouvert à peu près des vacances d'avril jusqu'à fin septembre. Et le jardin, on est plus ouvert de début mai jusqu'à fin septembre également, contrairement à la grotte de Chourange qui est ouverte toute l'année.
Alors là, Magali vient juste de nous rejoindre. On lui souhaite un grand bonjour. Magali, qui est la jardinière en chef, mais aussi la scénographe du site du Jardin des Fontaines Pétrifiantes, qui chaque année met un petit peu aussi, donne d'autres esthétiques, d'autres dimensions. On fera un petit tour, un parcours du jardin en votre compagnie, Magali. Mais juste auparavant, repréciser aussi ce que représentent les différents sites. On va revenir sur le jardin, mais auparavant, peut-être faire un zoom sur ce qui occupe aussi Saint-Nazaire-en-Royans, à savoir le bateau à roues et la grotte de Thaïs. Le bateau à roues sur lequel maintenant on peut naviguer de manière très fréquente en cette saison estivale, Romane.
Oui, tout à fait. Actuellement, en juillet-août pour la saison estivale, on a environ entre 4 et 5 croisières par jour. Donc on a quelques jours de fermeture, mais sinon on est ouvert sur toute la saison jusqu'au 1er octobre.
Un tour que fait le bateau avec son allure un peu Mississippi qui donne bien envie de s'attarder à bord, qui part depuis Saint-Nazaire et ensuite qui vient pas loin. Finalement, on arrive à l'apercevoir d'ici, à la Saône.
Oui, c'est ça. En fait, le bateau fait un aller-retour d'environ 1h30, donc au départ de Saint-Nazaire-en-Royans, passe devant le village de la Saône, devant le jardin des fontaines pétrifiantes et retourne au village de Saint-Nazaire-en-Royans pour débarquer les croisiéristes.
Donc une croisière, tout ça, vous le précisiez, 1h30 hein, pour faire bien ce tour qui donne bien un aspect aussi assez singulier de la rivière Isère, hein, que l'on ne connaît pas forcément sous des côtés assez sauvages. Hein, c'est, le bateau est vraiment dans un beau décor.
Oui, tout à fait. C'est 1h30 de croisière. Donc, c'est vraiment un rendez-vous avec la nature, un moment paisible, un moment de détente où on observe la faune et la flore locale, mais également l'architecture. Et en fait, c'est une croisière qui est commentée. Donc, il y a une hôtesse à bord qui vous parle de l'histoire de la rivière, de l'histoire des monuments, des villages. Donc, c'est assez riche en informations.
Oui, beaucoup de richesses, hein, qu'il s'agisse de la nature. On voit beaucoup d'oiseaux d'eau aussi. Hein, c'est un peu la particularité de toutes ces roselières qui encadrent l'Isère. C'est vraiment un coin précieux. Et finalement, on ne se sent pas dans la civilisation à bord de ce bateau. On est un petit peu déconnecté, semblerait-il.
Oui, c'est ça. On est vraiment déconnecté parce que déjà, on n'a pas forcément l'habitude d'être sur une rivière à bord d'un bateau de style un peu Mississippi. Donc, c'est vraiment un peu atypique à voir et à vivre. Et c'est pour ça, souvent, on nous dit que voilà, c'était un moment de détente, paisible.
Et à faire absolument, qu'il s'agisse de la famille ou même de manière individuelle, c'est toujours un temps assez sympathique. Et puis bien sûr aussi, à côté du bateau à roues, la grotte de Thaïs. Alors là, c'est plus le monde souterrain. Malgré tout, les deux peuvent aussi s'agencer assez facilement.
Oui, tout à fait. En fait, la grotte de Thaïs est située à 80 mètres de l'embarcadère. Donc, ça peut être tout à fait un package fait bateau plus grotte de Thaïs où vous n'avez pas besoin de prendre votre véhicule. Vous êtes déjà sur place. Et du coup, là, en fait, vous partez pour 1 heure de visite guidée dans une grotte préhistorique qui a été habitée par l'Homo sapiens il y a quelques milliers d'années. Et du coup, en fait, pendant 1 heure, le guide vous emmène sur les traces de l'homme préhistorique avec une reconstitution de campement, une démonstration d'allumage de feu, vous explique la formation de la cavité, mais également les explorations qui sont toujours en cours dans la grotte.
Une belle grotte, hein. On pourrait difficilement la comparer à la grotte de Chourange dans ses caractéristiques, hein, mais c'est une grotte finalement assez complémentaire de cette grotte de Chourange. Ça fait un bel ensemble du monde souterrain.
Oui, tout à fait. C'est deux grottes complètement différentes. Il y en a une qui est plus axée préhistoire, des couleurs orangées, un monde souterrain qui a été habité. Et une autre qui est plus des grandes salles, le pouvoir de l'eau avec ses stalactites fistuleuses. Donc c'est vrai que c'est deux grottes qui n'ont vraiment rien à voir et qui n'ont pas du tout la même grandeur.
Un côté assez aussi ludique hein, dans cette grotte de Thaïs, quand on la parcourt, on peut vite être perdu. Quand on la connaît pas, c'est assez. Finalement, elle fait des méandres en boucle.
On la caractérise comme une grotte labyrinthique. Ouais. On peut vite être perdu. En fait, on fait un 8 dans la grotte. Donc, on repasse à des endroits où on est déjà passé dans un sens et souvent, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, c'est ce qui fait sa petite particularité. Donc, c'est pour ça qu'on fait une visite guidée.
Voilà, rassurez-nous, Roman, c'est guidé. On ne risque pas de passer des journées entières à chercher la sortie dans cette grotte qui recèle aussi des couleurs à Saint-Nazaire. Ça, c'est étonnant, ça, ce côté un peu rougeâtre. Ça transparaît un petit peu dans la grotte.
Oui, c'est ça. Vous avez beaucoup de couleurs rouges, orangées, un peu noires, qui est la particularité de la grotte de Thaïs et de Saint-Nazaire-en-Royans, qui a beaucoup cette particularité de roche.
Y a-t-il des ateliers qui sont organisés parfois pour ce qui concerne, vous évoquiez le feu ou parfois aussi le côté un peu artistique?
Alors on a souvent pour les journées du patrimoine mi-septembre où on organise des ateliers plus axés pour les enfants où soit on fait de la création de parures de bijoux ou soit des bourses préhistoriques vraiment voilà dans le thème de la préhistoire. Et après aussi, on fait une nuit de la chauve-souris où notre guide Jérôme vous explique les types de chauves-souris qu'on peut retrouver par ici. On essaye d'aller les observer si le temps le permet. Et voilà, c'est un moment souvent qui plaît aux visiteurs.
Et la chance d'avoir aussi un guide qui a des connaissances comme ça, ornithologiques qui peut permettre de décrypter un petit peu la faune locale et son rapport avec la grotte, c'est une chance d'avoir des guides qui aussi connaissent parfaitement le milieu souterrain.
Oui, tout à fait. Oui, Jérôme est un grand passionné de chauves-souris. Il y passe un peu tout son hiver à aller faire des comptages. Donc, c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir cette richesse dans nos équipes.
La grotte de Taïs, combien de temps faut-il compter pour la visiter?
C'est environ une heure de visite guidée.
Alors combiné facilement, hein, comme on le disait, avec le bateau, vous élaborez des forfaits qui permettent de combiner, de synchroniser un peu les visites et les croisières.
Oui, tout à fait, on propose différents packages donc qui peuvent être achetables sur notre site internet ou en billetterie directement. Et vous pouvez faire la croisière en bateau à roues suivie de la grotte de Taïs ou inversement. Et après, on propose également des packages avec le jardin des fontaines pétrifiantes ou même avec la grotte de Chorange depuis cette année.
Vous en parlez justement de ce jardin de fontaines pétrifiantes, donc assez facilement rejoignable depuis Saint-Nazaire en Royan. C'est quelques kilomètres de route.
Oui, c'est à peu près 8 kilomètres, donc il faut compter à peu près 10 minutes de route entre les deux sites.
Alors quand nous arrivons au jardin des fontaines, c'est assez impressionnant, le côté luxuriant, la végétation qui y réside. On se doute qu'il doit y avoir un petit peu d'eau qui doit couler pour enrichir tout cela. C'est pas Magali peut-être qui va me contredire à ce niveau-là. Bonjour Magali.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de se retrouver chaque année pour découvrir finalement toujours une facette différente de ce jardin des fontaines pétrifiantes. Ouvert aussi actuellement toute l'année, vous faites profiter de...
Donc là, il est ouvert en ce moment 7 jours sur 7, mais nous fermerons le premier dimanche d'octobre.
Alors juste pour aussi le côté forfait, donc on peut aussi combiner, on disait le forfait Grotte de Taïs bateau plus jardin, on peut faire un pass pour une journée.
Alors on ne peut pas faire pour les trois sites parce que c'est vraiment un peu trop chargé et ça fait un peu trop courir, oui, on va dire. Mais du coup on propose des différents packages, donc bateau plus jardin ou Taïs plus jardin, en fait on propose que des deux sites.
D'accord, ok. C'est peut-être plus simple à organiser que trois.
Oui, c'est plus simple et ça permet de profiter du moment, de pouvoir pique-niquer ou aller au restaurant entre midi et deux et de profiter plus de la journée avec deux sites.
Oui, d'un point de vue restauration d'ailleurs, on peut facilement, s'agisse du bateau, la grotte de Taïs ou du jardin, se restaurer facilement à midi aussi.
Alors pour la grotte de Taïs, uniquement l'été, on propose des petites planches ou quelques sandwichs pour pouvoir faire une petite restauration d'appoint. Et au jardin des fontaines pétrifiantes, on a un petit restaurant de site où on propose des plats du jour, des salades, des ravioles. Voilà, c'est assez complet et ça permet de manger assez rapidement.
Juste avant de s'immiscer dans le jardin en compagnie de Magali, peut-être préciser s'il y a des nouveautés en termes de réservation par site ou... Des exclusivités de visite, je ne sais pas.
Alors, cette année, pour le Jardin des Fontaines Pétrifiantes, donc du 14 juillet au 27 août, on propose des visites en exclu web à 9h45 et à 10h10. Donc, on peut l'acheter uniquement sur le site internet ou à l'avance en billetterie. Et du coup, ça vous permettra en fait de visiter le jardin alors que nos bâtiments sont encore fermés. Ah oui. Et du coup, vraiment à la fraîche le matin avant qu'il y ait beaucoup d'affluence.
C'est ça, on sent un petit peu dans son jardin presque personnel, comme il n'y a pas vraiment beaucoup de visiteurs encore en matinée.
C'est ça. Il peut y avoir très peu de personnes à la première visite, donc c'est vraiment très intimiste.
Les visites qui peuvent être aussi guidées au jardin?
Alors pour les individuels, on propose également du 14 juillet au 27 août deux visites par jour, une à 11h10 et une à 14h50 qui sont guidées par nos jardinières. Mmh. Après ça, on indique sur notre site internet quand ont lieu les visites guidées parce qu'il peut y arriver que certains jours on ne puisse pas. Mais du coup, c'est tout indiqué sur le site web.
Un jardin de cette taille, c'est une grande équipe, Magali, j'imagine. Vous n'êtes peut-être pas toute seule à gérer tout cela?
Non, bien sûr, pour ouvrir le matin, il y a beaucoup de travail pour accueillir les visiteurs et que le jardin soit parfait tous les matins. Donc en ce moment, nous sommes une équipe de 5 jardinières.
Plusieurs étapes dans l'année. Là, on est dans l'époque où le côté de scénographie du jardin est terminé, j'imagine. Là, vous êtes plus dans l'entretien, la visite. Comment... Il y a plusieurs modes comme ça, des étapes dans l'année.
Oui, bien sûr, le jardin et le travail au jardin est différent suivant les saisons. En ce moment, on est en haute saison. Donc là, le jardin, effectivement, est installé. On est entré dans le jardin d'été, donc floraison d'été. Toutes les plantes ont bien poussé. Donc, on a un jardin luxuriant. Effectivement, le fait de pouvoir entrer un peu plus tôt dans le jardin grâce à des ouvertures permet de profiter de la fraîcheur et de voir le jardin en premier, exclusivité chaque matin. C'est très intéressant parce que la fraîcheur de la nuit est vraiment sur les fleurs qui viennent d'ouvrir, etc. Il y a quelque chose de vraiment particulier en matinée qu'on ne verra pas après dans l'après-midi. Mais dans l'après-midi, on aura l'eau, bien sûr, qui permettra de rafraîchir nos visiteurs qui arriveront dans le jardin.
Nous découvrons et nous admirons ce jardin d'année en année qui prend de l'expérience, n'est-ce pas, Magali, jardinière en chef, qui, vous le sentez au fur et à mesure des années, maintenant, il y a des habitudes, des choses sur lesquelles vous avez plus de facilité, de pouvoir peut-être plus encore approfondir et expérimenter ce jardin.
Oui, bien sûr. Alors chaque année, on essaie de pas rester sur les mêmes installations. Hein. Ce qu'on aime, nous, c'est proposer justement des plantes que les visiteurs n'auront pas vues ailleurs, proposer des nouvelles mises en scène. Donc on se renouvelle beaucoup. Ce qui change, c'est qu'on essaye d'ouvrir des nouveaux espaces, des espaces qui étaient sous les arbres, qui n'étaient pas forcément plantés, mis en valeur. On va comme ça proposer des nouveaux petits espaces dans le jardin. Et petit à petit, on s'installe vraiment partout pour que le visiteur puisse aussi en fait cheminer partout, aller vraiment dans le jardin. C'est vraiment un parcours où on découvre à chaque instant un petit jardin qui a été fait avec soin par les jardinières.
Vous avez retenu une thématique spécifiquement cette année dans la composition du jardin ou une, on va dire, une intention?
Alors souvent, mais sans que ça soit conscient, il y a une couleur qui revient certaines années. Alors là, cette année, ça sera plutôt le bleu. Hein, voilà, on a beaucoup joué avec le bleu. Ensuite, on s'amuse. On crée dans chaque petit massif un jardin, en fait. Chaque jardin est vraiment fait comme si c'était un petit monde à lui tout seul. Bien sûr, il faut que l'harmonie reste entre les massifs. Cette année, les gens viennent vers nous et nous parlent, ils nous disent il y a beaucoup d'humour cette année.
Ah oui.
Alors, c'était pas spécialement voulu, mais effectivement, on s'est amusé à mettre en scène des petites scénettes avec des personnages et du coup, ça fait beaucoup sourire les visiteurs.
Les visiteurs, comme vous venez de le souligner, qui vous font la remarque, effectivement, cette année, donc on peut imaginer qu'il y a des habitués au jardin. Des gens qui reviennent d'année en année, c'est une tradition.
Oui, c'est très agréable. Des gens qui reviennent quasiment toutes les années et puis qui font découvrir, qui viennent accompagner et qui ont grand plaisir à faire découvrir à leurs amis, à la famille, le jardin. Alors parfois, ils sont déçus parce qu'ils pensaient pouvoir leur montrer des choses, mais on a changé la mise en scène. Donc, des surprises toujours renouvelées à chaque saison au Jardin des Fontaines Pétrifiantes.
Alors, beaucoup de plantes hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir, spécialement d'un point de vue domestique, ou c'est ça, vous cultivez des choses qui sont assez méconnues du grand public?
Oui, on essaye d'apporter les deux. On aime que les gens retrouvent dans notre jardin la fleur qu'ils voyaient dans le jardin de leur grand-mère, ou des choses un peu classiques. Ce qui permet de faire un peu comme des madeleines de Proust, hein, oui. Voilà, ça leur permet d'avoir des souvenirs heureux au jardin. Et puis aussi, bien sûr, des nouveautés, des plantes que les gens n'ont vues nulle part ailleurs. Cette année, on a une plante énorme avec une grosse fleur de la taille de deux mains et qui est en fleur depuis le mois de mai. Ça s'appelle le Medinella et voilà, donc elle est remarquée par tous nos visiteurs et effectivement c'est une nouveauté au jardin.
D'accord. Elle pousse où en milieu naturel cette plante?
C'est une plante tropicale.
Ah oui.
Donc nous la rentrerons sous nos serres cet hiver. Mais là elle a beaucoup apprécié son passage au jardin pour ce printemps.
Y a-t-il un microclimat qui permet justement de pouvoir cultiver ce type de plante à la Saône? C'est plus favorable que dans d'autres secteurs?
Oui, bien sûr, avec l'eau du jardin, les sources, les cascades, il y a une humidité de l'air qui est très importante dans le jardin et ce qui recrée vraiment un milieu tropical, surtout quand il fait chaud dans ces journées d'été. Et les plantes méditerranéennes, tropicales, apprécient cette chaleur et on arrive à avoir des plantes de tout horizon. On met en particulier les plantes tropicales et pour certaines, il y a quelques années encore, on les rentrait toutes sous serre et maintenant, on a réussi à acclimater certaines plantes qui vont donc rester dehors toute l'année maintenant.
Qui se sont habitués.
Qui se sont habitués et pour qui on a trouvé le bon emplacement dans le jardin. C'est-à-dire que l'hiver, si on les plante près des sources, les sources vont créer un microclimat et vont nous permettre de protéger du gel certaines plantes. Donc, suivant où on les place dans le jardin, effectivement, elles peuvent être sous les tropiques toute l'année.
Et puis les plus fragiles, donc, vous les mettez un peu à l'abri, c'est ça, pour les préserver?
Oui,
durant l'hiver.
Quand nous fermons le jardin au public, le premier dimanche d'octobre, on va hiverner le jardin, c'est-à-dire que nous allons monter des serres et nous allons rempoter et mettre sous serre les plantes qui ne pourront pas survivre l'hiver et d'autres donc vont rester plantées, mais il faudra quand même les protéger.
Et aussi, ce qui confère un aspect assez magique au jardin, ce sont ces multitudes de sources qui... semble jaillir de cette falaise de la Saône et qui donne un côté très tropical au jardin. C'est...
Oui, grâce aux sources, on a vraiment un plaisir de visite parce qu'il y a le bruit de l'eau qui accompagne, il y a la fraîcheur, bien sûr, de l'eau en ce moment. Et puis, on permet aux gens de découvrir aussi d'autres plantes, peut-être moins connues, des plantes aquatiques. Donc, ça permet vraiment de proposer des massifs très différents avec des plantations de lotus, des nénuphars et puis à côté de ça des massifs plus classiques.
Un jardin qui s'enrichit d'année en année et c'est parti d'une petite idée finalement d'un acteur local qui était bien inspiré de ce jardin, Roman, pour l'historique et vraiment la mise en place des premières heures de cette proposition très florale. Vous avez souvenir d'un petit peu de la manière dont ça s'est passé au début? Donc, comment ça a été créé, par qui, ce jardin?
Alors, en fait, c'était un terrain en friche et c'est les propriétaires du bateau à roues, en passant devant lors de la croisière, qui ont décidé en fait de réhabiliter ce jardin. Et du coup d'en faire en fait un beau paysage pour les personnes qui passaient à côté en bateau à roues. Et du coup en fait après il y a eu plusieurs architectes qui ont intervenu sur cet espace du jardin pour en fait l'imaginer, le créer. Et du coup il a été créé en 1994 par...
Donc il y a eu trois ans de travaux, oui. Et les dessins ont été réalisés par un architecte paysagiste de Valence, Monsieur Vazisek, qui a vraiment très bien dessiné le jardin. Et aujourd'hui encore, on utilise les courbes qu'il avait pensées. Quand nous, on rénove le jardin, on se base vraiment sur ce que lui avait pensé et imaginé. Et on essaye de garder, bien sûr, le caractère de ce jardin, tout en rondeur, tout en eau qui accompagne toujours le visiteur. Trois ans de travaux avec bien sûr des entreprises du paysage local qui sont venues pour certains faire les chemins, les rocailles.
Beaucoup d'activités, pardon, Magali.
Mais c'est rapide pour un jardin. Créer un jardin à partir d'une friche en trois ans, c'était
un beau défi.
Une grande aventure. Ouais. Oui.
Et là, on sent que d'année en année aussi, il y a une certaine maturité qui donne maintenant un jardin bien implanté.
Alors, le jardin n'a que 29 ans, donc c'est encore un jeune jardin.
Ah oui, c'est quand même un jeune jardin.
C'est un jeune jardin, très jeune jardin. Mais effectivement, on voit sur les premières années, c'est là où on voit le plus l'évolution d'un jardin. Donc oui, il a vraiment changé. Il y a eu des choses qui ont été enlevées, qui ont été remplacées. Donc on cherche encore des choses pour vraiment embellir ce jardin.
Jardin qui a eu une distinction, on peut le rappeler, même il y a quelque temps, comme quelque chose de reconnu au niveau national, Roman.
Oui, tout à fait. On a obtenu le label Jardin Remarquable, qu'on a depuis 2016. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment une distinction pour nous. C'est quand même un beau label à avoir pour un jardin. Ça montre le travail et l'implication qu'il y a derrière. Et on a également aussi la marque Qualité Tourisme depuis 2018 qui est renouvelée tous les 5 ans. Donc là, on est en cours de renouvellement cette année. Et du coup, voilà, ce sont des labels qui nous permettent d'être valorisés sur le territoire et d'être reconnus en tant que site remarquable de la région.
Ouais, bien situé au niveau de l'Hexagone, hein, effectivement, ce jardin des Fontaines qui fait partie de ce type de reconnaissance, avec aussi bien du public qui, des fois aussi, vous le disent. Par cet intermédiaire de jardin remarquable, ça leur a donné un petit peu une amorce pour venir ici. On vous en parle.
Être jardin remarquable, ça veut dire être distingué comme un jardin d'exception. Il y en a très peu en Isère, très peu en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce sont vraiment les jardins qui ont un intérêt botanique, qui sont très bien entretenus et qui accueille les gens dans un milieu conservé. Donc c'est oui, ça permet aux gens, quand ils veulent visiter des jardins, de faire des choix. Et puis ça concerne des jardins qui peuvent être très différents les uns des autres.
Mmh. Et là, si on devait donner une caractéristique au jardin des Fontaines, quelle serait-elle? Côté tropical, comment on pourrait caractériser
Oui,
diversité,
on pourrait presque dire un jardin aquatique, tellement il y a de l'eau, hein, mais ce n'est pas que ça. C'est un peu difficile de le définir en un mot. Moi, j'aime dire que c'est un jardin de balade et de découverte. Donc, on essaie bien sûr d'avoir une variété botanique importante. On s'amuse à faire des petites collections d'impatience, de dahlia, mais c'est surtout un jardin de balade. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens passent un bon moment, changent d'atmosphère, on part en voyage grâce à nous, et puis voilà, on met des petites touches d'humour, comme je vous en parlais tout à l'heure.
De retour au jardin des Fontaines pétrifiantes dans ce beau village de la Saône en bordure d'Isère. Un côté assez remarquable, ne serait-ce que déjà pour l'ensemble du site. Et en se plongeant dans ce jardin aux mille facettes, on découvre beaucoup, beaucoup de choses. Ça mériterait peut-être plusieurs visites pour découvrir tant il recèle de belles choses. Et notamment aussi cette pièce maîtresse que compose la cascade. Il y a quelques belles cascades de tuf aussi vers les grottes de Chourange, n'est-ce pas, Romane, hein, vous confirmez?
Tout à fait.
On trouve une belle cascade de tuf à l'image de celle qui est présente au Jardin des Fontaines. Une cascade qui donne aussi un côté de manière curieuse, pétrifiante, mais aussi dans son sens littéral, Magali.
Ah oui, la cascade, alors vraiment, quand les gens la découvrent, elle est impressionnante. Ça permet en fait dans la visite d'avoir des endroits calmes avec une eau qui coule et qui fait un petit bruit agréable, poétique. Et puis d'un seul coup, on découvre cette cascade avec le bruit, hein, c'est fracassant. Et du coup, là, c'est beaucoup plus dynamique. Et du coup, la visite est rythmée comme ça par les effets de l'eau qui tombe en cascade ou qui chemine tranquillement dans les bassins. La cascade coule toute l'année avec le même débit, donc les visiteurs qui viennent au mois de mai ou au mois d'août découvrent le même paysage, une cascade avec beaucoup d'eau et puis de nombreux bassins en dessous qui ont été formés justement par ce dépôt calcaire, vu que nous avons des sources pétrifiantes et des bassins à débordement qui sont en dessous de la cascade.
La cascade qui semble aussi être bien alimentée, puisque en amont, on imagine qu'il y a une grosse réserve d'eau pour qu'elle puisse être si régulière que ça dans l'année. C'est quelque chose d'assez incroyable quand même.
Alors, on ne peut pas vraiment parler de réserve d'eau. Du coup, ça reste un peu un mystère.
Hein. Ah bon ?
Oui. Il y a de nombreuses sources, des centaines de sources qui arrivent dans le village de la Saône. Et nous profitons d'une quinzaine de sources qui traversent notre jardin. Elles viennent de différents endroits dans le village et la cascade est formée de plusieurs sources. Ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement où est la réserve, où est le lac souterrain qui permet d'alimenter notre cascade, mais toutes les sources du village aussi. De mémoire d'homme, ces sources ne se sont jamais taries et ont toujours eu des débits importants tout au long de l'année.
Par exemple, l'année dernière, au plus fort de la sécheresse, où il y avait très très peu d'eau de part et d'autre en France, comment se comportait cette cascade? Elle avait toujours un débit aussi joyeux?
Elle était toujours aussi dynamique et beaucoup d'eau. Et en fait, ouais. Il peut pleuvoir pendant plusieurs jours, nous n'aurons pas plus d'eau. Ouais. on n'aura pas à gérer des inondations, heureusement, c'est pour ça, les jardinières. Ouais. Et puis, au contraire, quand on est en canicule, qu'il y a la sécheresse partout, même tout autour de nous, hein, tout près, eh bien, nous avons toujours de l'eau. Et tous les bassins sont remplis d'eau. Ouais. Voilà. Et on ne voit pas la différence. Ouais.
Donc on circule assez librement. Il y a un moment qui est plus favorable pour le visiter ou toute la journée finalement c'est assez agréable de par toute l'eau qui s'y...
Le jardin est vraiment un havre de fraîcheur. On entre vraiment dans une forêt luxuriante. Il y a beaucoup d'eau. L'eau est fraîche. Hein, c'est de l'eau de source. Elle est à 13 degrés toute l'année. Donc elle est très fraîche en ce moment. Et puis l'hiver au contraire elle est chaude. Et du coup, on va vraiment avoir, un petit espace de fraîcheur dans le jardin. On peut le visiter à toute heure. Mmh. Mais effectivement, nous avons proposé ces ouvertures matinales, exclusivité cette année. Et c'est quand même intéressant de visiter un jardin le matin par rapport à la floraison.
Tremper les pieds, c'est quelque chose d'envisageable?
On peut.
On peut.
Alors, on ne peut pas se promener sur les tuffières, sous la cascade, dans tous les bassins, bien sûr, puisque c'est un milieu fragile qui demande de l'entretien. Et il y a des plantes qui ne pourraient pas supporter le passage des visiteurs. Mmh. Mais par contre, nous proposons des endroits où nous incitons les gens, effectivement, à tremper les pieds et marcher dans l'eau. Mmh.
Bien agréable pour une visite par laquelle il faut compter quand même un petit moment, il faut prendre son temps.
Faut faire le tour du jardin et puis ensuite faire demi-tour et faire le tour dans l'autre sens. C'est très important parce que nous avons caché des petites choses qui ne sont pas visibles si on monte un escalier, mais qu'on ne verra que si on descend l'escalier. Donc il faut vraiment prendre le temps d'aller dans les recoins, et de passer, de s'asseoir, de contempler. Nous, on propose une visite une heure et demie. Voilà. Mais les gens peuvent... Certains restent moins, d'autres restent plus.
Merci beaucoup, Magali. Merci, Romane. On peut préciser ou repréciser les heures d'ouverture du jardin pour celles et ceux qui souhaiteraient donc venir découvrir un peu toutes ces merveilles.
Oui, alors c'est assez variable en fonction des saisons. Donc la billetterie en elle-même ouvre toute la saison à 10h30. Donc on peut acheter des billets sur place à partir de 10h30. On a la petite exclusivité web donc pour les visites de 9h45 et 10h10, mais du coup la billetterie sera fermée, c'est pour ça qu'on les vend uniquement en vente en ligne. Et après en général on finit aux alentours de 17h30, la dernière entrée dans le jardin. Mais voilà, c'est assez variable en fonction de la saison, ça à une demi-heure près, c'est ça.
Alors il y a un site repère, hein, je crois, pour combiner différents sites ou simplement s'inscrire pour une visite au jardin.
Oui, tout à fait. Alors c'est le site Visite Nature Vercors qui regroupe en fait nos quatre activités. Donc la grotte de Chorange, la grotte de Thaïs, le bateau à roues et le jardin des fontaines pétrifiantes. Vous pouvez trouver les billets simples si vous souhaitez faire le site seul ou nos forfaits malins pour combiner deux activités à des prix réduits.
Combien faut-il compter pour, par exemple, au jardin des fontaines pour une entrée adulte, par exemple, et enfant?
Alors, du coup, on a deux tranches de tarifs parce qu'on a la basse saison et la haute saison. Donc, actuellement, on est en haute saison jusqu'au 3 septembre inclus. Donc là, pour le jardin, une entrée adulte, on est à 12,40 €. Et une entrée enfant 4-14 ans, on est à 8,30 €. Et pour les jeunes de 15-17 ans, on est à 11,20 €. On propose également des tarifs réduits donc pour les demandeurs d'emploi, les étudiants, les personnes en situation de handicap qui est à 11,20 €. Et les enfants de 0 à 3 ans sont gratuits pour le jardin.
Merci beaucoup Romane et merci beaucoup Magali pour votre accueil au jardin. Et bien maintenant il reste à faire le pas. Hein,
pour, à très bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Découvrir bien finalement d'année en année où ce jardin... change hein, de toujours de profil, donc on peut revenir chaque année, il n'y a aucun souci, on est toujours émerveillé par des nouveautés, des découvertes.
Oui, il faut venir voir les surprises de 2023.
Et là, vous commencez même déjà à préparer 2024 un petit peu dans votre tête. Ça fait son chemin bien avant l'installation des plantes.
Oui, alors là, on est vraiment pleinement investi dans le jardin 2023. Ouais. On fait vraiment très attention au jardin. Et beaucoup de choses pour que les plantes soient en bonne santé et bonne forme. Donc, on est complètement investi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a toujours des petites idées en tête, bien sûr. Et puis, l'année prochaine sera une grande année. Le jardin fêtera ses 30 ans, donc il y aura des surprises.
Et que le public n'hésite pas à vous interpeller pour justement avoir un peu plus de connaissances sur ce qu'il voit.
Oui, Romane parlait de visites que nous proposons à des horaires fixes, une en matinée, une dans l'après-midi. Bien vérifier si elles ont lieu le jour de votre visite avant de venir sur le site internet. Ce sont les jardinières qui proposent de parcourir le jardin en votre compagnie. Mais on peut aussi, bien sûr, quand les jardinières sont en train d'entretenir le jardin, venir discuter, partager, poser des questions.
À loisir. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on retrouve l'agenda touristique de Radio Royan-Vercors. Et puis ensuite, nous clôturons cette émission. Merci de vos interventions. À très bientôt au jardin, mais aussi au bateau à roues, à la grotte de Thaïs. Merci Romane, merci Magali. À bientôt.
Merci.
Et merci à Florian en technique. C'est parti pour l'agenda touristique. Bienvenue dans l'agenda touristique de Radio Royan-Vercors. Et place tout d'abord à nos partenaires. La grotte de Chouranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire en Royan, le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance en Vercors et le musée de la préhistoire du Vercors à Vassieux-en-Vercors. Le Grand Séchoir à Vinay, le musée de l'eau de Pont-en-Royan, la maison musée de Rochechinard. Et du côté des festivals, le festival des chapelles Royan-Vercors, le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye et nos partenaires Office de tourisme, l'Office de tourisme Vercors-Drôme et les trois antennes de Saint-Jean-Royan, Saint-Nazaire-en-Royan, la chapelle en Vercors. Et enfin, vers les Monts du Matin, Indians Valley à Bourgard-Barré. Entamons cet agenda avec les sorties de ce mercredi à découvrir côté Royan-Vercors, de la musique, le festival des chapelles Royan-Vercors qui bat son plein et qui propose des ateliers en famille, des petits concerts en tout cas, avec aujourd'hui une découverte et des récitations à destination de tous les publics de Georges Aperghis et concert en famille avec l'orchestre de chambre de la Drôme qui se déplacera à l'occasion dans la médiathèque de Saint-Jean-en-Royan à 11h et puis ensuite du côté de Saint-Laurent-en-Royan à 16h. L'entrée est libre, mais prenez garde de venir bien à l'heure pour le début de chaque concert, donc 11h, 16h. Nous reviendrons dans quelques instants pour le concert du soir dans une deuxième partie d'agenda à Saint-Jean-en-Royan. Nous allons partir prendre de la fraîcheur du côté de Écheville, dans la vallée de la Vernaison, pour un atelier découverte des petites bêtes de la rivière. Alors, à vos bottes, vous en aurez besoin pour découvrir et aussi scruter avec une loupe et votre épuisette ces petites bêtes qui sont là, cachées. Une expérience ludique et scientifique et de précieux indices de vie au bord de la Vernaison. Deux horaires pour découvrir cet atelier, 15h et 16h niveau maternel et 16h30, 17h30 primaire à la guinguette du pêcheur, réservation obligatoire, durée 1h et prix 5€ par enfant, sachant que les enfants sont sous la responsabilité d'un adulte non payant. Restons aussi à Écheville dans cette même guinguette pour un temps d'atelier balade comptée. Balade botanique et champêtre à la découverte des plantes de la prairie et du bord de rivière. Mêmes horaires que pour l'atelier découverte des petites bêtes. 15 à 16 pour les petits, 16h30, 17h30 pour les primaires. Et puis notons également ce spectacle jeunesse 1800 secondes à Vassieux cette fin d'après-midi avec Thierry Dupuis, seul en scène qui propose un spectacle singulier et poétique pour les petits bouts de 2 à 8 ans. Une mise en scène sobre qui mêle chansons, comédie, musique et marionnettes. Au café librairie Les Espelines de 18 à 19h30 pour le tarif unique du 6 euros. Prenez le temps des histoires, c'est ce que nous annonce le réseau Pastèque de l'intercommunalité de Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté qui, avec différentes médiathèques, propose des animations et notamment aussi aujourd'hui à 10h30, animation dans les histoires à la médiathèque de Saint-Hilaire-du-Rosier, des histoires dans la cour de cette médiathèque sur le thème de la liberté. Et c'est dans le cadre de l'événement national Partir en livre à partir de 4 ans. Donc ce matin à 10h30 dans la médiathèque de Saint-Hilaire-du-Rosier, moi dans la cour. Poursuivons avec une visite botanique en Sud-Grésivaudan dans le jardin médiéval de Saint-Antoine-l'Abbaye en compagnie de Chloé Flamand, ingénieure horticole. Une découverte tout public des plantes du jardin médiéval dans une approche scientifique et sensorielle en lien avec le parcours Parfum d'Histoire dans le musée départemental de Saint-Antoine-l'Abbaye, dans le musée départemental de Saint-Antoine-l'Abbaye, du soin au bien-être. En ce mercredi 19 juillet, un moment d'atelier à 15h30 avec Chloé Flamand. Et on termine ce chapitre avec une vente de livres à Chatte aujourd'hui. Il est question bien de préparer ses vacances avec la médiathèque qui propose une vente de livres, des centaines de documents, albums, BD, documentaires, de 50 centimes à 2 euros le document. Profitez-en à partir de ce 19 juillet jusqu'au 29 juillet, tous les jours aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Et en l'occurrence, le mercredi, 10h, 12h, 14h, 19h. Faisons une première pause musicale dans cet agenda avec la chronique touristique du jour qui nous emmène au Musée de l'eau. Troisième partie aujourd'hui. Chronique touristique au Musée de l'eau de Pont-en-Royans. Comment on procède l'exposition phare du musée actuellement ?
Il y a trois permanentes. C'est les photographes Rémi Masson et Simon Destombes, et puis il y a Francis Allais. Alors Rémi Masson, lui, il plonge dans les souterraines, dans les grottes, les gouffres alpines. Et puis c'est magnifique parce qu'en fait, il nous fait découvrir un monde complètement mystique pour nous. Je ne sais pas si toi t'es déjà allé dans...
Pas plus que ça, dans les entrailles de la terre avec l'eau.
Non, et en plus, ce qui est magnifique, il est tout simple. Et puis, il a dit, il ne voulait pas prendre les bouteilles pour vraiment pas déranger ce milieu aquatique. Et même pour lui, pour être plus immergé dans ce monde fantastique, en fait, presque fantastique. Moi, je trouve, quand je vois les photos, elles sont vraiment très, très belles. Et après, il y a Simon Destombes. Alors lui, c'est un guide d'haute montagne, un grimpeur et un photographe autodidacte qui parcourt le monde entier. Et là, il expose des photos sur l'eau. Il nous fait découvrir l'eau par le monde. Et c'est très étonnant parce que c'est quand même des photos qui parlent. Des problèmes de maintenant aussi. Il y a par exemple Libye, des photos, on voit qu'on amène de l'eau aux gens pour qu'ils mettent ça dans des citernes parce qu'il n'y a pas d'eau. Ils payent ça très cher et voilà. Ou les glaciers. Et on voit les glaciers d'ici qui a vraiment, vraiment reculé. Et c'est juste incroyable. Ou des photos aussi, on voit des pédalos.
Ah oui. Hein,
mais sauf qu'ils ont sur une terre aride, il n'y a plus rien.
Ouais.
Ah, du coup, il n'y a pas. Hein, et on connaît tous les problèmes du maire d'Aral ou toutes ces problématiques. Et ils le montrent bien. En plus, ces photos, ils ont très, très beau. Il y en a avec des chameaux, mais c'est magnifique.
En fait, il parle de l'eau, mais du manque d'eau aussi. Hein.
Oui, c'est ça.
Du manque d'eau, mais aussi, par exemple, avec les chameaux. C'est les chameaux plutôt.
Je ne me rappelle jamais.
C'est les chameaux, oui. Je pense. Et puis, que c'est aussi l'eau, on a tous besoin de l'eau. Hein. C'est la chose le plus important qu'on a. Hein. C'est ça qui nous fait vivre, qui fait vivre absolument tout. Que ce sont des coins de rencontre aussi. À des villageois ou les gens avec les chameaux, ils se rencontrent, il y a tout quelque chose de social aussi autour de ça.
Chronique touristique au musée de l'eau de Pont-en-Royans. Nous retrouverons la suite de cette chronique touristique au musée de l'eau demain dans notre prochain magazine touristique et son agenda. Nous reprenons le cours de différentes propositions et certaines qui donnent aussi des frissons. C'est cette descente en rappel faisable tous les mercredis avec le concours de l'Office Vercordrome. Pour nous en parler, nous retrouvons Cécile de l'Office.
Nous proposons donc les mercredis après-midi sur le site de Saint-Nazaire-en-Royans, sur l'aqueduc, des descentes en rappel. Donc les mercredis après-midi entre 15h et 17h45, ça s'adresse à tout public, enfants comme adultes, donc à partir de 8 ans. Les réservations se font au 04 75 48 22 54, également par mail info au singulier, donc info@vercors-drome.com. Les tarifs sont de 12 euros pour les moins de 18 ans et 14 euros pour les adultes. Et si les personnes apprécient leur descente, il y a une possibilité de faire une deuxième descente à 10 euros.
Comment se déroule ce type de descente en rappel? C'est encadré?
Alors oui, bien sûr, c'est encadré par le prestataire Rêve de Cime qui vous équipe avec un baudrier, un casque, tout le matériel nécessaire, qui vous explique comment passer par-dessus le parapet, puis se laisser descendre tout doucement et profiter du panorama qui se fait tranquillement sur le lac et les alentours.
Pas forcément d'avoir besoin des compétences d'alpinisme?
Absolument pas. C'est vraiment tout public, donc même les enfants des 8 ans qui veulent découvrir l'activité le peuvent.
Le camp de base, c'est l'Office de tourisme à Saint-Nazaire-en-Royans pour
c'est
cette
ça.
Activité.
Oui, sur la commune de Saint-Nazaire-en-Royans. Une petite préconisation peut-être pour que les gens soient confortables, prendre une tenue où on est à l'aise et puis des baskets. Et puis se présenter un quart d'heure avant l'heure du rendez-vous pour qu'on ait le temps de tout expliquer, que tout se passe dans les meilleures conditions.
Voilà pour cette descente dont vous vous rappellerez longtemps pour le mercredi, tous les mercredis de 15h à 17h45 jusqu'au 16 août. Le festival des chapelles en Royans-Vercors se poursuit. Nous allons à présent jeter un coup d'œil sur cette fin de semaine, ce samedi 22 juillet, avec un cadre patrimonial puisque Saint-André en Royans sera le théâtre de cette nouvelle proposition musicale avec l'ensemble le Tétractis. Et pour cela, avec en toile de fond le cinéma, nous écoutons les propos de Fabrice Ferrez nous présenter cette soirée. Fabrice Ferrez, directeur artistique de l'association Les Yeux Fertiles.
Et le 22, on va aller dans un endroit où on n'est jamais allé. On va traverser la Bourne et on va aller à Saint-André-en-Royans. À 18h, vous aurez une visite du village par les amis du Vieux-Saint-André. Je vous recommande, c'est un village qui est très riche. Bon, je pense que beaucoup le connaissent, mais ça vaut le coup de vraiment de refaire une visite. Moi, je connaissais déjà, mais j'ai été vraiment séduit. Donc ça, c'est à 18h, c'est gratuit, la visite du village. Et après, il y a le concert le soir. Si vous avez des gens que vous avez envie d'emmener au Festival des Chapelles depuis plusieurs plusieurs années, mais qui vous disent à chaque fois, oh, moi, le classique, je suis pas sûr, peut-être je vais m'ennuyer. Amenez-les à ce concert du 22. C'est un concert qui s'appelle Florilège du cinéma en musique. C'est le quatuor à cordes de Tétractis que vous connaissez bien, avec Georges Denoy, Dominique Miton, Anna Simré, Isabelle de Bévert. Et vous pourrez entendre un florilège de musique de film. Alors, pour ceux qui ont pleuré à Titanic, qui ont suivi les westerns de Morricone en étant presque prêts à rentrer dans l'écran, pour aussi les plus jeunes ou les moins jeunes qui regardent ces magnifiques dessins animés du japonais Miyazaki, il y a beaucoup des musiques d'Isaichi, qui est vraiment un génie de la musique de film japonais. Donc, Le Château dans le Ciel, le voyage de Chihiro, etc. C'est vraiment des musiques d'une très, très grande poésie. Il y aura aussi pas mal de musiques de comédie musicale américaine. Donc, c'est vraiment le concert festif par excellence de ce festival.
Poursuivons également avec des temps de musée, une nouvelle exposition à découvrir au musée des amis de Rochechinard, la maison musée de Rochechinard plus précisément, pour un été qui se poursuit jusqu'au 3 septembre avec une programmation estivale et puis aussi des expositions et notamment celle de Géraldine Koziak et ses 10 000 choses, elle qui s'attache d'abord à un lieu, à une atmosphère, puis elle s'empare des objets regardés ou oubliés, jugés beaux ou laids, importants ou désuets, artistiques au quotidien. Elle les façonne et ensuite, eh bien, son travail s'attache à composer par des collections d'objets, des peintures narratives qui donnent une autre vie aux choses. Et la maison mémoire ne manque pas d'objets, justement, dont Géraldine s'est emparée d'une certaine manière pour opérer cette exposition 2023. Notons le vernissage de l'exposition le samedi 22 juillet à 18h. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté du musée de l'eau, voir un petit peu ce qu'il en retourne des différentes expositions de cet été 2023. Exposition surprenante en photo. Nous allons scruter l'une d'elles avec son géniteur, Rémi Masson, avec des paysages aussi toile de fond subaquatique, c'est assez fascinant. Nous écoutons les propos de l'artiste. Bonjour Rémi Masson.
Bonjour.
Nous nous situons juste devant vos clichés, des photos qui nous laissent entrevoir un monde parfois assez méconnu pour les visiteurs du musée de l'eau, c'est-à-dire un peu les entrailles de la terre et tout cet aspect de subaquatisme dont vous êtes friand. Vous êtes photographe, preneur de vue déjà, enfin dans un premier temps, votre spécificité.
Oui, c'est vrai que je suis avant tout photographe, même si maintenant je travaille aussi pour du film, des documentaires télévisés. C'est vrai que j'aime bien l'aspect image pour montrer en une seule image finalement un paysage.
Alors, dans le musée de l'eau, c'est justement un panorama de beaucoup d'eau, de grottes, de failles. Alors, qu'est-ce qui a été ? C'était une demande ou c'était une proposition de votre part, ce type de paysage souterrain ?
Oui, moi je travaille sur pas mal de sujets liés à l'eau douce, mais c'est vrai que je voulais montrer un aspect un peu différent, mais vraiment en lien finalement avec le site, puisqu'on est dans le Vercors, avec les grottes au-dessus, donc ce côté souterrain il est important, parce que c'est l'origine de l'eau finalement qui passe même à côté du musée de l'eau, hein. Et c'est vrai que c'est des paysages qu'on connaît pas forcément, parce que déjà le souterrain on le connaît moins, et en plus encore moins ce qu'il y a sous l'eau, parce que ça demande d'avoir un peu de matériel, de rajouter de l'éclairage, et c'est vrai qu'il y a des choses vraiment étonnantes et magnifiques en fait.
Et qu'est-ce que vous avez souhaité relever en premier lieu, finalement, dans ce type d'opération ?
Ouais, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté dépaysement, finalement, à travers ces paysages qui sont tout le temps là, mais qu'on ne voit pas forcément. Et montrer, voilà, il y a vraiment, enfin, même moi, enfin, j'ai souvent tendance à dire ça fait 20 ans que je fais de la plongée en eau douce, et j'arrive encore régulièrement à être surpris par des paysages, il y a des choses incroyables, et c'est très diversifié, et beaucoup plus joli ou étonnant que ce qu'on pourrait croire, ouais.
Et c'est le milieu calcaire qui vous séduit particulièrement dans ce type de paysage subaquatique, souterrain?
Le calcaire a comme avantage, c'est effectivement qu'il est, c'est lui qui offre les grottes, les cavités. Et en plus de ça, il peut être creusé pour former les cavités, mais il peut aussi se déposer. Donc, on a aussi des galeries qui sont tantôt remplies d'eau, tantôt à sec, et donc où ça va se déposer. Puis une fois que c'est de nouveau en eau, on a des décors avec des concrétions, c'est des choses vraiment très très étonnantes et ouais, des cristaux, enfin beaucoup de choses en fait.
C'était Rémi Masson pour cette exposition à découvrir durant tout cet été dans le musée de l'eau de Pont-en-Royans. Des animations en soirée pour cette fin de semaine, nous voyons cela tout de suite avec notamment les Artichauts à Saint-Martin-en-Vercors. Un titre assez sympathique pour garder un esprit de bonheur, de chanter, d'exigence et de convivialité. Voilà, à la grange ouverte pour découvrir des côtés renaissance, baroque, gospel et des compositeurs aussi parfois lointains. De 20h30 à 21h30, ce vendredi 21 juillet. La grange ouverte se situe dans le centre-village de Saint-Martin-en-Vercors. Autre animation avec des tons de couleur pour cette soirée créole en perspective dans le village de la Saône avec l'association L'Art et Union qui vous invite à sa soirée tapas créole avec le groupe Dogo Farah en concert. Terrasse extérieure également, salle climatisée pour ce restaurant. Donc de 19h à 21h, vous aurez tout loisir de vous restaurer avec des spécialités créoles au son de la musique créole. Autre événement à découvrir en cette fin de semaine, vendredi soir, les vendredis du Parvis avec une bonne dose de blues et également de la country, du rock, du gospel, du folk, voilà tout ça dans la voix de Martha. Dîner à partir de 19h sur réservation 04 76 36 18 98, une formule plutôt bistronomique et concert gratuit dès 21h sur le Parvis. À noter que Martha Fields est reconnue comme un des meilleurs groupes de Americana en Europe, Martha Fields. Bande est composée naturellement de elle-même, Martha chanteuse-compositrice et de ses musiciens français. Deuxième chronique touristique à vous présenter pour cet agenda touristique. Et pour ça, nous allons regagner Saint-Agnan-en-Vercors et sa célèbre grotte de la Luire qui révèle différentes strates, qu'elles soient historiques ou encore géologiques. Pour cela, nous suivons Sarah et bien sûr responsable du site de la grotte de la Luire.
En fait, le porche, il a beaucoup d'histoire, mais il est bien connu pour son hôpital qui était installé ici. Un hôpital improvisé, clandestin.
Militaire.
Militaire, donc c'est l'hôpital des maquisards du Vercors. Donc, c'était en juillet 1944. Donc, les nazis, ils avaient encerclé le Vercors et Saint-Martin, les maquisards, ils avaient un hôpital militaire. Mais dans la matinée, le docteur, il a vu les planeurs au-dessus de l'hôpital. Et ce moment, il a eu peur, il a décidé d'évacuer l'hôpital. Ils sont réfugiés sur le porche de la grotte de la Luire. Ils pensaient d'avoir trouvé un endroit sur le porche. En fait, ils sont restés là 6 jours à plus de 150 personnes. Et le 6e jour, la même chose. Les planeurs, les avions des nazis juste au-dessus du porche de la grotte de la Luire. Une deuxième fois, le docteur il a décidé d'évacuer l'hôpital. Donc beaucoup de gens étaient partis dans les forêts, dans les vieilles granges. Et une trentaine de personnes, par exemple, ont grimpé sur la paroi à droite du porche. Ils sont installés dans une entrée de grotte juste au-dessus. En fait, eux, ils ont survécu le massacre, le drame de la Luire. Parce qu'à 16h l'après-midi, les nazis, les soldats, ils sont arrivés par là. Hein. Juste derrière vous, il y a une falaise qui fait 20 mètres, ils ont grimpé dessus. Une vingtaine de soldats sont arrivés ici, ils tirent dans l'air, ils étaient prêts à fusiller tout le monde qui était encore sur le porche. Mais ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Entre les blessés graves, 4 nazis polonais, encore en uniforme. Et c'est eux qui ont crié en allemand, tirez pas, c'est un hôpital, ne tirez pas. Ils n'ont pas tiré de suite. Mais quand même, ils l'ont enlevé, ils ont ramené tout le monde d'ici jusqu'au parking. Et au bout du parc, ils ont fusillé 11 personnes. Après, au Rousset, encore 8 personnes fusillées. Les deux docteurs le prêtent son fusil à Grenoble et à la fin, il a encore ramené, déporté 7 infirmières en Allemagne.
Et nous refermons cet agenda aujourd'hui, non sans citer les partenaires qui nous soutiennent à l'occasion de ce magazine touristique estival. La grotte de Choranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans, le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône, des musées comme le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance en Vercors et le musée de la préhistoire du Vercors à Bassieux, le grand séchoir à Vinay, le musée de l'eau de Pont-en-Royans, la maison-musée de Rochechinard et les festivals des chapelles en Royan-Vercors, le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye et le concours des offices de tourisme Vercors-Drôme, ainsi que le site Indians Valley à Bourg-Garbaré. Merci pour ce magazine touristique spécial à Romane et Magali du Jardin des Fontaines Pétrifiantes à la Saône, où s'est enregistré aujourd'hui, mercredi, ce magazine spécial avec son agenda.